J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
C'est un thriller en chambre, un espace clos qui permet toutes les évasions et surtout les voyages dans le temps. Une enquête dans le labyrinthe du passé et des passions. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Ce labyrinthe, c'est celui de l'inconscient. L'enquête, c'est un peu celle que mène l'analyste avec son patient. Et le thriller, c'est la série française qui bat des records et qui revient pour une deuxième saison sur Arte, soit En Thérapie. La déclinaison d'une série israélienne créée par Agaï Lévy, adaptée, modelée en France par Eric Toledano et Olivier Nakache. Si devant réalisateur de comédies à succès comme Intouchable ou plus récemment Hors Normes. Eric Toledano, bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir nous parler de ce projet, lui aussi Hors Normes. À vos côtés, Eye Haïdara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, on vous a vu et aimé en organisatrice à poigne dans Le Sens de la Fête. Et on vous retrouve dans En Thérapie, en avocate, toujours à poigne, mais aussi avec une fêlure, à première vue, un désir d'enfant inassouvi. L'instrumental d'En Thérapie, signé Yuxek, Eric Toledano, alors que le générique montre des images de films de famille, de films anonymes, mais en fait peut-être pas si anonymes que ça.
Non, c'est vrai, je l'ai déjà dévoilé, mais c'est les 8 mm que mon père faisait avec sa caméra qu'il a eue dans les années 50, et il a filmé plein de choses. On a retrouvé un carton avec plein de 8 mm, et quand j'ai fait développer, il y avait pas mal de surexposition, de choses un peu maladroites et floues, et du coup, ça évoquait quelque chose, presque le souvenir, l'inconscient, pas mal d'images cognitives, et du coup, on a fait un montage avec Olivier Nakache pour montrer ce qu'on aimerait bien avoir comme générique, et on l'a envoyé à quelqu'un qui fait des génériques, et il a dit, je vais faire le graphisme, parce que le reste, c'est à peu près ça qu'on peut imaginer.
Alors, c'est enfoncer une porte ouverte psychanalytique que de faire le lien entre ces films de famille et votre propre vocation de réalisateur ?
Non, je pense que c'est pas du tout un hasard. Je pense que c'est vrai que il y avait une phrase qu'un jour avait dit De Cono César qui m'avait fait beaucoup rire, qui m'avait marqué. D'ailleurs, je l'avais dit à mon psy, qui m'avait dit remerciez pas les gens trop longtemps avec des prénoms qu'on connaît pas, parce que d'abord c'est vrai qu'on les connaît pas, puis ensuite si vos parents vous avaient suffisamment aimé, vous seriez pas là. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Alors c'est exagéré, mais c'est vrai qu'on fait tout ça pour attirer l'attention, pour avoir un peu de reconnaissance, et puis avec le temps, ça se transforme peut-être en autre chose. On arrive à trouver d'autres objectifs. Je crois que cette série, pour Olivier et moi, on est un peu à cette étape-là. C'est-à-dire qu'on arrive à exprimer des choses sur ce qu'on ressent, sur la société, sur presque maintenant, avec moins de distance encore. Il y avait eu des attentats avec la saison 1, maintenant c'est le Covid. C'est un exutoire, c'est cathartique. C'est certain que ça nous sert de véhicule pour dégager pas mal de choses.
Alors, il y a un an, la première saison d'En Thérapie battait des records stratosphériques pour Arte, hein, Arte et Arte.tv, 54 millions de vues. Là, la série est déjà en ligne depuis une semaine, déjà 7 millions de vues. Est-ce que ça vous surprend ? J'imagine évidemment que
ça me surprend. Ça me surprend, ça m'enchante et je ressens une vraie satisfaction parce que, pour tout vous dire, l'idée de remettre le couvert sur cette saison n'était pas une évidence parce qu'on n'a jamais fait de suite avec Olivier. On s'en est toujours méfié. On se dit toujours que finalement on risque le comparatif, que quand on a dit quelque chose, on l'a dit, puis il n'y a pas à revenir dessus. Alors au cinéma, on l'a jamais fait. Et puis là, c'est quand même une série. Et puis est arrivé le Covid. Et c'était vraiment un déclencheur, une porte ouverte. Et puis, il y arrivait aussi des messages d'un peu à droite à gauche avec des réalisateurs qu'on admirait, qui disaient « j'ai vu la série ». On s'est dit « waouh, si eux, ils acceptaient de venir, alors ça donnerait une autre envergure à tout ça ». Et donc, finalement, on a accepté. Puis après, quand on a accepté, comme toujours, on regrette et on se dit « mais pourquoi je suis allé là-dedans ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va ?» Finalement, les gens... Quoi. Et donc, finalement, on a travaillé. On a été vraiment, on n'a plus réfléchi à autre chose qu'à travailler. Puis maintenant, simplement, vient en boomerang ces chiffres et la presse que je vois plutôt
dithyrambique,
avec
on
nous,
va dire.
Voilà. Et du coup, je me dis que de temps en temps, il faut arrêter de se poser des questions et se dire que c'est sympa, que c'est bien, qu'on arrive à certains objectifs. Je suis très heureux de voir Aïe aujourd'hui. On s'est rencontrés dans d'autres circonstances, de la revoir ici et de voir toutes les louanges que j'ai sur son personnage, sur Agnès Jaoui qui a réalisé ses épisodes, etc. Donc non, je suis surpris et heureux.
Alors, vous adaptez la série Beauty Pool, hein. Ça c'est le titre d'origine israélien d'Agaï Lévy, c'est le même dispositif, on est petite souris là où règne le secret médical dans le cabinet d'un psychiatre psychanalyste. Le psychiatre, c'est l'acteur Frédéric Pierrot. Dans cette saison, il va recevoir une avocate a priori qui vient parce qu'elle est en mal d'enfant, c'est vous, Ayez Aïdara. Il y aura aussi un grand patron dans la tempête après le suicide d'une employée, c'est Jacques Weber, et puis un petit garçon. Les spectateurs avaient suivi les tourments de ses parents dans la saison 1. Désormais, Robin va voir seul le docteur Dayan.
Pourquoi vous portez pas de masque?
Parce que c'est pas obligatoire pendant la séance, tant que les gestes barrières sont respectés.
Donc ça veut dire que je dois l'enlever, là?
Non, c'est comme tu le souhaites.
Et vous êtes sûr qu'il y a un mètre de distance entre nous?
Alors?
1,50 m.
Ouais, tu vois, on est même large.
Dans d'autres pays, c'est 2 mètres.
Mieux comme ça? Ton masque me fait penser à Spider-Man. Peter Parker, c'est ton super-héros préféré?
Genre, vous connaissez?
Bah bien sûr, Spider-Man, il a mon âge.
N'importe quoi.
Mais je t'assure, les premiers albums ont dû sortir dans les années 60-70.
C'est si vieux que ça?
C'est donc lui ton préféré?
Ouais, je l'aime bien. Y a rien qui est facile pour lui.
On est le 18 mai 2020. Le docteur Dayan reçoit donc Robin, un petit garçon très stressé par le Covid. Il se frictionne activement les mains au gel hydroalcoolique. 4 ans ont passé depuis la première saison, en fait, Eric Toledano. Un an dans la vraie vie entre les deux saisons, 4 ans dans la fiction. En thérapie, c'est une série suffisamment plastique pour être accommodée à la sauce de chaque pays en fonction de l'actualité?
C'est une fois de plus un véhicule qui permet l'adaptation libre, parce qu'on a un auteur qui a pas un ego surdimensionné malgré le succès phénoménal qu'il a, et encore récemment avec Scène de la vie conjugale qu'il a adapté, et qui dit faites ce que vous voulez, améliorez, faites mieux si vous pouvez, sortez de... Donc là, par exemple, il y a un personnage qui n'existe presque pas dans la série originale, qui est celui de Charlotte Gainsbourg.
C'est la superviseuse hein, du
exactement,
du docteur.
Et donc voilà, elle est écrite par Emmanuel Finkel, entre autres, et on va créer vraiment des nouveaux enjeux, etc. Donc elle peut être dépassée, elle peut être imitée, elle peut être... on peut tourner autour. En tout cas, elle permet une vraie adaptation et non pas une copie, parce qu'on ne pratique pas la psychanalyse de la même façon en France, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux dans nos sociétés, et parce qu'on ne vit pas les mêmes choses culturellement entre les différents pays. Donc, et on ne les incarne pas de la même manière. Voilà, nous, on a la chance d'avoir un Jacques Weber colossal, on a la chance d'avoir Ayé, on a la chance d'avoir Suzanne Lindon. Donc on manie tout ça et on mélange le tout et sort quelque chose finalement qui n'a pas grand-chose à voir avec l'original, mais qui traduit, comme disait Ragaï Lévy, les personnages et leurs failles traduisent les failles du pays où on en est. C'est une photographie où on en est. Alors oui, Beauty Pool, c'était la société israélienne, qui est une société en guerre, qui est une société où tout le monde fait l'armée, où l'armée est très importante. Parfois, on dit en Israël que c'est plus important d'avoir eu un bon poste à l'armée qu'un bon diplôme. C'est pas la même société. Nous, on est en France et on va essayer de décrire à notre niveau.
Ayez Aïdara, on va venir ultérieurement à votre personnage, mais vous connaissiez la série d'origine, vous aviez regardé soit Beauty Pool, soit En Analyse, Fine Treatment, la version américaine avec Gabriel Byrne.
Alors, je n'ai pas regardé la version américaine et j'ai regardé la version israélienne après avoir vu la version française. Effectivement, c'est pas les mêmes codes parce que c'est pas les mêmes sociétés, mais on retrouve quand même pas mal de similitudes, et c'est ce que j'aime, moi, c'est de retrouver des personnages complètement singuliers, mais on entend une espèce d'universalité dans tout ça, dans chaque personnage, et je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, que cette série traverse autant de pays, autant de continents.
On fait une petite pause dans tous les cinémas du monde avec cette nouveauté musicale, le choix de notre réalisatrice Fanny Renard, c'est Célassiou en duo avec le rappeur Damso pour ce titre Wanted You to Know. Toledano, vous êtes avec Olivier Nakache, donc le showrunner, maître d'œuvre de la série En Thérapie. Vous avez tenu à réaliser 7 épisodes sur 35. Hein,
puisque... 8 en tout, parce qu'il y a un épisode de procès aussi qu'on a réalisé avec aussi Carole Bouquet.
Puisqu'on suit donc le personnage du psy, hein, le docteur Dayan, sur une semaine. Chaque jour de la semaine est représenté par un patient. Votre patient, si je puis dire, avec Toledano, c'est Robin, hein, le jeune acteur Alyosha Delmotte. Pourquoi vous avez choisi de mettre en scène, donc, outre l'épisode du procès, cette histoire plutôt que...
Alors d'abord parce que par élégance, on s'est dit que comme on allait chercher les autres, on leur laisserait tous choisir. Et puis que nous, de toute façon, l'idée d'avoir un adolescent, ça nous renouvelait par rapport à ce qu'on avait fait dans la saison 1 avec Mélanie Thierry et Reda Kateb. C'était quelque chose de différent. Il y a deux choses qui nous intéressaient. Un, l'adolescent, il est, et d'ailleurs Alyosha n'a pas la même tête, ouais. Il est vraiment en mutation, c'est-à-dire qu'il est encore un peu un enfant et déjà presque un adolescent. Mais cette période-là nous intéresse énormément. C'est la période, bon, moi j'ai des enfants et c'est la période qui m'a le plus fasciné. C'est le moment où ils sortent de l'enfance. Alors, généralement, selon les cas et selon les enfants, c'est entre 10 et 12 ans. Et c'est cette période-là, elle est fascinante. Il y a presque un côté papillon, quoi. Ça change, ça dit des mots différents, ça a des réflexions nouvelles, ça prend conscience de pas mal de choses. Et donc, c'est la période qui nous intéressait. D'ailleurs, au casting, c'est presque... On a commencé par un casting de quelqu'un de plus âgé et il y avait quelque chose qui sonnait bizarre et puis on a descendu l'âge. Et je vous dis, il a pris 10 cm, perdu 10 kilos et il n'a plus la même voix. Même au poste synchro, on ne pouvait plus travailler avec lui. Et c'est phénoménal. Et ensuite, il y a quelque chose de l'ordre de la question de la responsabilité dans cette saison, en général, qui est questionnée, la responsabilité du psy. Et pour ce personnage, il y avait la responsabilité des parents. Quand on le voit, on se dit, il est à cette place-là, mais où est la responsabilité de ses parents? D'ailleurs, la question, c'est pas à moi de lui dire certaines choses, c'est à vous de le dire. Donc, il y a certains épisodes où ils sont tous ensemble, avec les parents. Certains où il n'y a que le père et l'enfant, quelquefois que la mère et l'enfant. Et donc, ça nous questionne. Et puis, alors, pour terminer, je dirais qu'on parle beaucoup de son enfance quand on est en psy. C'est marrant de voir un enfant parler de cet étage-là, voilà, de cette hauteur-là.
Au moment où se construit.
Au moment où il se construit.
Éric Toledano, on le sait, vous travaillez depuis toujours en tandem, en frère siamois presque, avec Olivier Nakache. Mais plus généralement, on connaît votre goût presque pour filmer des équipes, sans doute aussi travailler en équipe. Pour la première saison déjà, vous aviez convié d'autres réalisateurs à réaliser donc des histoires. Cette fois, vous avez fait appel à Arnaud Desplechin, Emmanuel Finkiel, Emmanuel Berco et Agnès Jaoui. C'est Agnès Jaoui qui réalise tous les épisodes vous mettant en scène. Et il y a Idara. Vous interprétez Inès, une avocate que le docteur Dayan va tout d'abord rencontrer hors de son cabinet, on y reviendra. Inès est une ancienne patiente, adolescente. Elle avait choisi d'interrompre une grossesse non désirée. Désormais quadragénaire, elle s'interroge et se reproche ce choix.
Vos parents ne seraient pas contents d'apprendre que vous êtes avec quelqu'un? La semaine dernière, vous disiez qu'ils espéraient vous voir en couple.
Non, mais oui, mais pas ce couple-là, là. Pas avec un homme pas complètement divorcé, là. Un veuf, à la rigueur. Mais là, je vais passer de la case vieille fille à la briseuse de ménage. Ça fait 20 ans que mes parents ils attendent ce moment. J'ai pas envie de les décevoir. Mes frères, eux, ils ont fait tout comme il faut. Alors, ils ont épousé des Maliennes. Mon frère Djibril a même épousé une dont la famille vient du même village que mon père. À moi, j'aurais l'air de quoi avec mon breton? Oui, encore si c'était appelé Sekou ou Samba. Là, ils auraient peut-être, je dis bien, peut-être accepté le divorce et les enfants, mais là, c'est... Non, il cumule. Il a rien pour lui, le pauvre.
On se met pas en couple pour ses parents.
Je sais.
Comme on ne fait pas non plus un enfant pour ses parents.
Je sais.
Ce que je veux dire, c'est qu'il est très compliqué de s'autoriser à fonder sa propre famille sans avoir l'impression de trahir ses parents.
En fait, j'ai l'impression de revivre toujours la même histoire. Toujours à mentir, à me cacher, par peur de les décevoir.
Voilà, Inès, hein, qui a du mal avec ses relations avec des hommes, qui ne peut pas, qui ne se sent pas en capacité de présenter son nouveau compagnon à ses parents. Comment vous la voyez, Inès? Proche de vous, très loin de vous?
Quand je l'ai incarné, c'était moi. Enfin, oui, j'ai du mal un petit peu à mettre trop de distance. Alors, quand on prend les rôles, à un moment donné, ça nous dépasse et on en fait soi. Et puis, il y a forcément des choses qui résonnent un petit peu chez nous par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu. Je ne sais pas si on fait du transfert, mais en tout cas, c'est sûr que je ne me projetais pas d'autre image que moi dans Inès.
Vous avez un point commun déjà, les origines maliennes.
Exactement. Ouais. On avait parlé de ses origines, on s'était dit qu'effectivement, c'est très bien de lui trouver une origine, une ethnie. Parce que c'est vrai que ça apporte un espèce de poids de se dire qu'on vient de telle ou telle ethnie. Souvent, on a ce bagage aussi des parents, de leur tradition, du poids de la famille. On a du mal un petit peu à s'en défaire et en même temps... On a aussi envie que nos parents nous regardent, on a aussi envie que nos parents soient fiers de nous. Et puis, on se met des freins. Parce qu'on a peur de... On a peur de les décevoir. On se dit... On évolue aussi dans un air qu'ils ne connaissent pas, ou alors qu'on pense qu'ils ne connaissent pas, parce que, effectivement, s'ils habitent en France avec nous, ils connaissent. Mais voilà, c'est tout ça qui me plaisait dans Inès. C'est tous ces espèces de petits conflits intérieurs, encore une fois, qui sont très singuliers à elle, mais qui sont très universels.
Éric Toledano, justement, vous aviez choisi de... Enfin, vous aviez déjà mis en scène Iya Idara dans Le sens de la fête. Vous aviez, donc, avant l'écriture de cette deuxième saison, vous saviez déjà que vous alliez lui proposer un rôle?
Disons que j'espérais qu'Agnès serait d'accord, parce que c'est quand même conjointement, et on a fait un casting où il y a eu plusieurs personnes, et on a laissé aussi Agnès venir. Nous, on avait une conviction, c'est qu'avec Ayé, on avait commencé quelque chose et qu'il fallait continuer, et qu'elle avait une puissance à interpréter les choses. Et en plus, c'est souvent ce qu'on dit avec Olivier, il y a des histoires nouvelles à raconter aussi, avec le bagage qu'elle a, avec cette culture-là, et donc c'est intéressant. Moi, je me suis beaucoup reconnu. Elle disait dans une interview, les gens doivent se dire « Inès, c'est moi ». Alors ouais. Moi, qui suis un garçon, je me suis dit « Inès, c'est moi ». Mais c'est moi parce que parfois, et ça a fait partie des déclencheurs de la série, quand, par exemple, le Covid est arrivé, il y a eu des réactions chimiques et on a su des choses sur nous-mêmes. Par exemple, qu'on était obligé d'aller chez ses parents une fois par semaine, de façon cérémoniale, presque rituel, etc. Et d'un coup, on ne peut ne plus y aller. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce qu'on ressent de la culpabilité? Parfois même, c'est dur à dire, un soulagement. Et donc, tout ça, c'est des questions qui m'intéressaient et qu'avec le personnage d'Inès, on peut traiter ce rapport à la famille, ses obligations. À un moment, il y a une phrase, on dit « on ne fait pas un enfant à ses parents ». Et ça, c'est malheureusement dans pas mal de cultures. Les parents attendent tellement de nous que presque on se demande si on ne fait pas les choses pour les satisfaire et où est notre place à nous et comment on se situe. Et puis après, des parents qui sont arrivés d'un autre pays, c'est mon cas aussi. Donc il y a un fossé parfois générationnel entre nous et nos parents qui n'est pas une génération comme mes camarades de classe qui avaient, eux, parfois une génération. Moi, je pense qu'il y en a 3 ou 4. Quand on a vécu dans un autre pays avec une autre culture, il y a la réputation de la famille, il y a des choses comme ça. Et tout ça me parle. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir aussi, au prisme de la thérapie, qu'est-ce qu'il en ressort de ces confessions-là.
Quand vous parliez d'Agnès Jaoui, qui réalise donc tous les épisodes avec Ayed. En fait, vous avez, avec Olivier Nakache, composé justement des tandems réalisateurs-acteurs, c'est ça?
Plus d'abord une équipe de réalisateurs avec vraiment... une collection avec des personnages et ensuite en commun choisir les acteurs pour les incarner, mais voilà, un rêve aussi d'avoir tous ces réalisateurs avec nous, pouvoir les observer, pouvoir voir comment ils travaillent, des gens qu'on admire, on se dit tiens, ben c'est sympa, on va pouvoir s'offrir la possibilité de collaborer avec eux, non pas comme je dis souvent dans un café ou dans un festival à échanger 3 mots sur le terrain du travail. Faire un casting en commun avec des Pléchins, c'était pas dit que ça m'arriverait dans ma vie, ni parler découpage ou parler montage avec Agnès Jaoui ou Berco ou Finkel. C'est ça qui nous intéressait aussi, de s'ouvrir un peu. On est ensemble depuis 7 films avec Olivier. C'est un petit duo qui fonctionne bien, on s'entend bien, mais ça marche bien si on s'ouvre de temps en temps. Là, on va se refermer un peu parce qu'on va aller faire un film tous les deux et c'est bien. C'est comme quand on part en voyage, partir pour mieux revenir.
Donc chaque réalisateur met sa patte.
Exactement.
Alors que pourtant, il y a des contraintes très fortes, c'est toujours le même décor, mais et puis en plus, c'est des face-à-face.
Ben c'est ça qui leur a plu. C'est ça qui leur a plu et c'est ça qui m'aurait plu si on me l'avait proposé. C'est d'arriver et de travailler dans la contrainte, c'est-à-dire j'ai pas à tout créer, il y a le décor, il y a l'acteur principal qui est quand même Pierrot, au passage, qui est le psy. Il y a les textes qui sont faits. En fait, votre art, c'est de diriger des acteurs et de réaliser avec une caméra. Et parfois, on se réalise beaucoup plus dans la contrainte que dans la possibilité infinie.
Ouais, c'est ce que disait Agnès. En plus, je trouve ça assez juste. Elle disait j'ai compris que je n'étais pas propriétaire, mais je ne peux pas péter des murs, mais par contre, je peux faire ma déco. Et je trouvais ça assez pertinent de dire ça.
Et du coup, le planning de travail d'une saison dans thérapie, ça se présente comment?
Ça se présente
de façon... Il y a un décor unique?
Un décor unique et... un intervalle, un changement pour Frédéric Pierrot, pour qu'il respire et pour que les acteurs se rechargent. Tous les 3 jours, on change. C'est-à-dire qu'on fait un personnage, parfois 2 épisodes maximum, et puis ensuite, c'est un autre personnage qui rentre dans le studio. Et donc, ça tourne, et lui, il arrive à ne pas être... Il est un peu comme dans la série. Il reçoit les patients les uns après les autres. Parce que si on devait faire tout d'affilée, il y a peut-être un espèce d'ascension émotionnelle trop rapide. Donc chacun a le temps de se retirer et de revenir. Alors selon les emplois du temps, des fois on a trifouillé un peu. Je crois que c'était ton cas.
Oui, avec Charles, je crois que Charles et moi, on a fait des blocs.
Voilà, vous avez fait des blocs. Mais sinon, on a essayé de respecter cette pondération qu'il y avait dans la première saison.
Et c'est Emmanuel Berco qui réalise tous les épisodes avec Jacques Weber, donc le grand patron. Totalement déboussolé après le suicide d'une salariée et qui s'inquiète pour sa fille.
À la fête foraine de l'angoisse, vous n'êtes pas obligé d'essayer tous les manèges.
Je sortirai bien cette phrase à ma femme, mais je suis pas sûr que ça l'amuse en ce moment.
Elle est anxieuse, elle aussi?
Anxieuse, c'est faible. Depuis quelques jours, elle est couverte de plaques rouges, elle maigrit à vue d'œil. Alors, j'essaie de la préserver de tout ça, mais bon. Normal, hein. Nicolas s'inquiète pour sa fille, pour notre fille. Ben quoi? Qu'est-ce qui vous fait sourire?
Ce serait ennuyeux que votre femme s'inquiète pour vous.
Non, non, absolument pas. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour moi. C'est juste une histoire emmerdante. Enfin, pénible, mais ça passera. Et si vous aviez accepté de m'aider, ça serait certainement passé plus vite. Seulement, voilà, vous n'avez pas voulu de moi. Pas grave. Les crises, ça passe toujours. Toutes les crises, ça passe.
Ça passe toujours.
Ah, Qu'est-ce que j'ai dit encore ?
La même chose que la semaine dernière.
En thérapie, Eric Toledano, c'est la mise en scène de la parole. Les silences, enfin les dialogues sont très importants et les silences sont presque aussi importants que les dialogues.
Oui, parce que c'est une série qui traite de l'écoute et que dans la thérapie, les silences ont une signification et qu'on peut les laisser exister. D'ailleurs, il y a une phrase que dit Pierrot, enfin Dayan à un moment, il dit, si vous pouvez écouter le silence. Il dit, je suis pas venu pour ça, parce que lui, il est speed. Et il dit, quelques épisodes plus tard, il dit cette phrase, il dit, c'est fou ce qui se passe chez vous. Parce que les silences peuvent s'installer, parce que le calme peut s'installer. Et je pense que le calme s'installe aussi chez le spectateur, dans la société bruyante à laquelle il est confronté, où finalement tout va très vite, tout s'enchaîne de plus en plus vite, le rapport au temps est de plus en plus dans l'immédiateté. Et finalement, c'est un peu asymétrique avec l'époque, cette temporalité, cette possibilité d'écouter le silence. Alors, c'est des moments aussi où le corps peut parler, prendre le relais de la parole. Et j'aime à citer Lévinas quand il dit le visage parle.
Et c'est peut-être ce qui permet d'expliquer aussi l'incroyable succès qui se maintient, qui ne se dément pas, donc de la première saison qui a été diffusée pendant le confinement. Il y avait peut-être justement, ça a rencontré un besoin de la part pour les téléspectateurs de se poser.
Alors on n'a jamais d'explication au succès, et tant mieux, mais moi l'explication que j'aime à me donner et à nous donner avec Olivier, c'est que c'était justement un petit peu un cocon où on peut se réfugier, où il y a de l'écoute et du silence et non pas de la cacophonie. Et c'est peut-être quelque chose qui, ce succès peut-être nous raconte en creux que on est tombé dans quelque chose d'assez bruyant et qu'il faut revenir à ce rituel, à cette temporalité, à l'éloge de la lenteur, finalement, dans une société qui va de plus en plus vite.
C'est l'éloge de la lenteur, mais en même temps, c'est presque une véritable enquête, hein, parce qu'on va découvrir progressivement pour chacun des personnages. C'est comme si ça se ou comme un artichaut, je ne sais pas si on enlève
les mots. Oui, mais parce que on fait de la série, on fait du cinéma, mais pas au mépris du spectateur. Mmh. Et donc, à aucun moment, on a pensé que la lenteur ne devait pas installer de tension dramatique, de suspense, etc. Donc, chacun des personnages a une avancée, que ce soit Alyosha, Delmotte, Robin ou que ce soit Jacques Weber, qui est presque de l'ordre du thriller, où à chaque séance, on va découvrir de façon vraiment ordonnée. Et là, il faut rendre aussi compte aux scénaristes, à l'équipe de scénaristes, Clémence Madeleine Perdria, tous les scénaristes et Ragaï Lévy qui l'a créé, qui a effectivement quelque chose de l'ordre de l'artichaut où on épluche, où on se met à nu, et on décortique le cerveau et le psyché de quelqu'un et on arrive à des conclusions assez surprenantes. C'est ce qui est fascinant dans la thérapie.
Alors avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous êtes pressé, là, vous allez bientôt, vous êtes en repérage.
Oui, pour un nouveau film.
Pour un nouveau film qui commence en mai, c'est ça le tournage. Donc avant, juste une dernière question. Une saison 3, c'est déjà...
Ah non, c'est pas d'actualité, mais après, vous savez, on ne s'est pas projeté encore là-dedans. Mais je ne m'étais pas projeté dans la 2 non plus, donc je ne sais pas. À ce jour, je ne peux pas vous répondre. Voilà.
On va rester avec Yé. On vous laisse.
Merci infiniment.
Merci beaucoup, Eric Toledano. Ayant parlé des dialogues juste avant, est-ce que justement les dialogues sont très écrits ? Par exemple, donc je pense à votre personnage d'Inès. Il y a des moments, il y a des lapsus. À un moment, elle dit « Ma mère veut m'engrosser ».
Exactement. Non, alors c'est très écrit, oui. C'est très écrit et justement, je pense que mon premier coup de cœur déjà sur cette série, c'est l'écriture. Du coup, ça, quand c'est bien écrit, on n'a pas forcément besoin d'en rajouter ou d'improviser. L'improvisation, elle vient parce qu'elle vient, c'est naturel. Enfin, il y a des petites choses qui se passent, il y a des réactions un petit peu inattendues de la part de nos partenaires. Donc, c'est là où arrivent des petites choses qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire l'improvisation. Mais sinon, je reste vraiment dans ce squelette de l'écriture. Et surtout, chez Inès, elle a quand même c'est quand même une avocate. Donc, elle a quelque chose, un rapport assez, assez précis avec la langue. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art du langage.
Et qui veut souvent avoir le dernier mot aussi.
Exactement, qui ne veut pas perdre.
Ce qui est intéressant avec ce personnage d'Inès, c'est qu'il n'est pas du tout réduit à ses origines. On en parlait, elle en parle, et c'est important. Mais en même temps, Inès, elle a plusieurs identités. Elle a une identité de genre, elle a une identité professionnelle, elle a des fêlures personnelles. C'est vraiment un personnage très riche à incarner.
Ouais. Oui, oui. Enfin, c'est... En plus, c'est un personnage avec plein de contradictions, mais après, est-ce qu'on n'est pas tous avec toutes nos contradictions? C'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un de carriériste, mais en même temps, c'est une fille qui est très famille, là, qui dit qu'elle dîne avec ses parents, avec sa famille quand même, toutes les semaines, et elle se sent effectivement obligée, mais je ne sais pas si c'est uniquement dans l'ordre de l'obligation, je crois pas que ce soit uniquement ça. Et voilà, ces fêlures aussi, c'est assez drôle de voir quelqu'un qui maîtrise aussi bien sa vie professionnelle et dans sa vie intime, elle est complètement perdue, quoi. Elle a aucun code. Justement, il n'y a pas de code dans l'intime. Et elle, c'est peut-être
il n'y a pas
quelqu'un
de code civil de l'intime.
Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Et elle, voilà, peut-être qu'elle a sa vie avec assez... c'est une carrière assez tracée. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est complètement déboussolé, intimement parlant, face aux hommes, qui ne sait pas faire, quoi. Qui n'a pas les cartes.
Et vous avez regardé toute la... Enfin, vous en parliez tout à l'heure, vous aviez regardé la première saison en entier de En Thérapie ?
Ah oui, ouais.
Mais je veux dire, avant même de savoir que vous alliez jouer dedans
ou... Je ne savais pas du tout qu'ils étaient déjà sur une saison 2. Je ne savais pas du tout... non, j'ai aucune idée. Je l'ai su, vraiment. Ils m'ont proposé, je ne sais pas, peut-être à 3-4 mois du tournage. Quand ils ont commencé à rentrer en casting, mais non, je ne savais pas du tout.
Et alors, est-ce que votre famille regarde justement la série ?
Ouais. Ouais. Ça me touche beaucoup qu'ils regardent et puis de voir que ça leur plaît.
Mais particulièrement sur cette série plutôt qu'un de vos des films, c'est
ouais,
pas pareil.
Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, il y a des projets comme ça où il y a des choses qu'on fait, on leur montre pas forcément ou des choses qu'ils voient, ils ne regardent pas forcément, ça ne les attire pas. Mais ça, sur cette série, effectivement, j'avais envie qu'ils regardent. Alors, je ne savais pas comment leur amener, mais c'est mon frère qui leur a montré. Et ça leur a plu, ça leur a parlé, ça leur a évoqué des choses que moi, j'arrive à lire sur leur visage, même s'il n'y a pas trop de mots dit dessus. Mais j'ai senti que ça leur a plu et ça m'a fait énormément plaisir sur ce projet-là particulièrement.
Et est-ce que vous avez regardé, là, pour cette saison 2, les histoires, les épisodes qui concernent les autres personnages de la saison ?
Ah mais oui, bien sûr, je les ai dévorés parce qu'en fait, quand on commence à tourner, on ne sait pas ce qui se passe avec les autres patients. Il est dans le secret, donc je n'ai pas lu les autres scénarios, je ne sais pas ce que traverse Robin, ni Suzanne, enfin je ne sais pas du tout. Donc oui, j'ai été comme tous les spectateurs aujourd'hui, à l'affût des épisodes et de leur histoire, de tout ce qu'ils traversaient. Et j'ai été impressionnée, j'ai été bouleversée par tous, par Jacques, par Robin, par Suzanne. Et puis, ce qu'apporte Charlotte, c'est vraiment... c'est autre chose. J'ai été bouleversée, vraiment. J'ai été contente de découvrir cette saison-là, comme ça, avec tout le monde.
Donc, sur arte.tv. Et donc, le psy, c'est Frédéric Pierrot, qui vous donne la réplique, enfin, surtout qui vous écoute beaucoup, qui vous relance. Est-ce que, sur ce tournage particulièrement, l'écoute de l'autre, donc de votre partenaire, Frédéric Pierrot, est particulièrement importante, évidemment. Il joue un psy. Alors que la caméra est braquée sur vous, il n'est pas en train de regarder ailleurs, il vous écoute vraiment.
Ah non, pas du tout. Il est vraiment là, il est plus que là même. Et je pense que c'est... D'ailleurs, c'est un très grand acteur et il a une très belle écoute, une écoute qui parle, une écoute qui résonne, même dans ses silences, qui est très très forte. Et je pense qu'à plusieurs moments, j'ai été même dépassée par son écoute. Son écoute m'a emmenée à des endroits dont je ne soupçonnais pas aller dans la lecture. Je pensais pas qu'il allait m'écouter de cette façon et je pensais pas que... Il y a des choses qui m'ont énervée dans son écoute, ce qui ont fait que... Je sais, Agnès Jaoui me disait toujours « Calme-toi, calme-toi, calme-toi. »
Parce que vous étiez trop dans le personnage, c'est ça ?
Mais oui, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, c'est qu'à un moment donné, on se laisse dépasser et on... on ne contrôle plus rien. Et cette écoute-là de Frédéric, souvent, on s'y sent bien, on est confortable dedans et on déballe des choses qu'on aurait dit à personne. Et des fois, quand on n'a pas de retour et qu'on interprète des jugements ou quoi que ce soit, ça nous prend, ça nous énerve, ça nous fait crier, ça nous fait pleurer. Et non, je dois dire que Frédéric a une très, très belle écoute.
Et alors, Éric Toledano disait qu'effectivement, vous faisiez partie des acteurs qui avaient dû tourner un peu tous les épisodes pas mal dans un pack. C'est parce que vous avez eu une année très chargée, non? Je crois que vous êtes à l'affiche de plusieurs films cette année.
J'ai eu une grosse année, un gros marathon de d'un an et demi, deux ans, je dirais même, après le Covid. Et oui, donc j'ai eu cette contrainte où j'étais contrainte de tourner sur un bloc sur deux semaines. Mais ce qui n'est pas plus mal, enfin moi je l'ai bien vécu, je pense. Enfin, j'étais fatiguée à la fin. Mais...
Oui, votre personnage évolue effectivement beaucoup.
Mais j'aime bien. Enfin, je fais beaucoup de théâtre et ça me faisait un peu penser à ça, aux répétitions de théâtre. Quand on traverse tous les personnages comme ça, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et donc... C'est bien.
Merci, Ayez Aïda.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. On poursuit l'émission et on viendra au Journal du cinéma juste après cette nouveauté musicale. Peter Doherty, désormais sobre, posé et apaisé, revient au plus haut niveau musical grâce à sa collaboration avec le français Frédéric Lowe. En témoigne son nouvel album et le titre éponyme « The Fantasy Life of Poetry and Crime ». Bells they chime, bells they chime in time. A vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slight shape shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find. Peter Doherty, The Fantasy Life of Poetry and Crime. Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. C'est le moment de feuilleter le journal du cinéma avec vous, Elisabeth, cette semaine. Journal qui commence avec une bien triste nouvelle. On a appris dimanche dernier la disparition de la cinéaste Yamina Bachir Chouir.
Oui, monteuse de formation. Elle était passée derrière la caméra, Yamina Bachir Chouir, en 2002 avec un très beau film, Rachida. Rachida qui mettait en scène une jeune institutrice dans un quartier populaire d'Alger pendant la décennie noire. Yamina Bachir Chouir, elle avait aussi mis en scène, en 2010, un documentaire sur l'engagement des femmes pendant la guerre d'Algérie. C'était une cinéaste engagée. Et en tant que monteuse, il faut signaler qu'elle avait travaillé sur nombre de films algériens. On ne les citera pas tous, mais entre autres sur ceux de son mari, Mohamed Chouir.
ولی خب شریکم پولم برداشت برای همین نتونستم قسطوی وام پرداخت بکنم.
مامان دایی اومده.
Asghar Farhadi accusé de plagiat.
Et c'est l'une de ses étudiantes qui l'accuse. Alors, ironie du sort, hein, le film en question, c'est un héros, grand prix du jury au dernier festival de Cannes, qui raconte l'histoire d'un homme justement entraîné dans un cercle vicieux par un mensonge. Selon le journal professionnel Hollywood Reporter, le cinéaste doublement oscarisé a été mis en examen, puis reconnu coupable en première instance. Et sinon, on vient d'apprendre que les candidats de la FEMIS ont dû plancher sur Tukibuki cette année. En effet, l'épreuve d'analyse de film portait sur un extrait du chef-d'œuvre du Sénégalais Djibril Diop Mambéty. Je crois, Sophie, que sans prendre trop de risques, on peut dire que c'est la première fois qu'un film d'Afrique subsaharienne est programmé au concours de la célèbre école de cinéma parisienne.
Mais c'est une très bonne nouvelle. On part maintenant à Bangui, où la formation cinéma Bangui vient de reprendre après des mois d'incertitude, de suspension par l'ambassade de France. Boris Lochkin, qui avait porté ce projet pendant des années, a cédé sa place. Il faut dire que la formation a prouvé son utilité, notamment quand on voit qu'un ancien étudiant, Rafiki Fariala, a remporté tous les suffrages et des prix, même avec son documentaire « Nous, étudiants », sélectionné au Festival de Berlin. Ciné Bangui, c'est une formation conduite par la Cinéfabrique, l'école de cinéma de Lyon, et l'Alliance française dans la capitale centrafricaine. Éric Dieu, merci Nambéi, fait partie des 34 étudiants recrutés sur concours qui étudient le cinéma auprès de professionnels français, rwandais ou centrafricains. J'ai pu le joindre par téléphone cette semaine. Il m'a dit la joie et le soulagement de voir reprendre cette formation après 4 mois de suspension et d'incertitude.
Oui, oui, ça a été vraiment, je peux dire, ça a été une galère. On a eu des réunions avec les responsables de l'ambassade, avec même le monsieur ambassadeur. Et voilà, ils nous ont promis la reprise de la formation et ça, c'est chose faite en fait.
Donc la formation a repris il y a 3 semaines. Mais alors pour vous, Eric, comment ça se passe? Vous êtes dans une section spécifique? Vous formez à un métier spécifique du cinéma?
Oui. Ciné Bangui, c'est un projet qui forme les jeunes centrafricains sur 5 métiers du cinéma. Nous avons la production, l'image, son, scénario et montage. Et moi, je suis dans la section montage, donc nous sommes 5 dans cette section-là. J'ai déjà eu à monter un film dans les 4 premiers films qu'on a eu à tourner l'été passé.
Alors Eric, quand on a 23 ans et que jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas de salle de cinéma à Bangui, comment est-ce qu'on découvre le cinéma? Comment est-ce qu'on découvre sa vocation?
Moi, au début, donc, si je me souviens, lorsque j'ai eu à intégrer Ciné Bangui, bon, pour moi, le cinéma, c'est un nouveau monde, quoi. Je connais rien. Bon, certes, j'ai eu à partager avec des connaissances qui sont déjà dans le métier en question, mais bon, en fait, j'ai un regard neutre lorsque j'ai intégré Ciné Bangui, et surtout ma section. Et je peux te dire, au début, ce n'était pas facile, en fait. Donc, il me faut des efforts, je dois faire des efforts pour comprendre tout ce que nos formateurs vont nous dire, et puis voilà, c'est un peu ça.
Mais même, est-ce que du coup, vous voyez beaucoup de films, vos formateurs vous incitent à découvrir des films? Alors, j'imagine surtout peut-être à voir sur un écran de télé ou d'ordinateur, s'il n'y a pas de salle de cinéma?
Oui, mais heureusement, à l'Alliance française, au début de la formation, à l'Alliance française, l'Alliance a mis à notre disposition une salle de projection. Donc, chaque après-midi, après la journée, c'est-à-dire à la fin de la journée, le formateur nous fait visionner un film. Et voilà, sur ce coup, moi aussi, j'ai eu vraiment cette habitude-là de regarder des films. Et dans mon programme, j'ai fait un effort pour regarder 3 à 4 films par jour. C'est vraiment une chose qui m'a beaucoup touché, en fait.
Et alors, Eric, quel film vous a le plus marqué je ne sais pas si c'est votre film préféré ou le film qui vous a le plus touché?
Le film qui m'a beaucoup touché, c'est le film Camille Lepage.
Le film sur Camille Lepage, de Boris Lochkine?
Oui, 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 oui. Et pourquoi? Parce que ce film m'a poussé à me poser beaucoup de questions. Si ces gens-là arrivent à faire ce genre de film dans mon pays, et ce film touche la réalité centrafricaine, et puis ça m'incite, quoi. Ça m'incite, moi aussi, à faire comme eux. C'est ce film-là qui m'a vraiment beaucoup touché, quoi. Et c'est même ce film-là qui m'a donné l'envie de me donner dans le cinéma et, en quelque sorte, de développer cette idée-là d'être, de devenir un monteur et un réalisateur monteur d'ici peu.
Voilà, on souhaite le meilleur à Eric Dieu-Merci Nangbei ainsi qu'aux autres étudiants de Ciné Bangui. Et on termine cette émission à Montréal. Cela faisait 2 ans que le festival Vue d'Afrique n'avait pas accueilli de spectateurs. Pour sa 38e édition, ils sont de retour. Le festival a conservé un volet en ligne qui a démarré le 26 mars. Les projections ont, elles, commencé vendredi dernier. 118 films sont programmés à la Cinémathèque québécoise, dont une vingtaine de longs métrages. Plusieurs mettent l'accent sur le développement durable. Notre correspondant à Montréal, Alexis Gacon, a pu rencontrer des habitués de ce festival et constater leur joie de se retrouver enfin en salle.
Après 2 ans sans assister physiquement au festival, Gilda, originaire du Maroc, a pris son pass pour aller rattraper le temps perdu cette semaine.
Ça a été très dur de manquer Vue d'Afrique. Et c'est tout un bonheur parce que c'est pas juste le festival, c'est de retrouver les gens qu'on connaît, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un festival très 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 convivial.
Pour le film de ce soir, Gilda s'est laissée tenter par la suggestion de son amie.
Moi je m'appelle Lydia. J'ai choisi un film qui s'appelle Mada ou le premier homme, qui est censé revisiter l'histoire du début de l'humanité. D'accord. Alors j'ai trouvé ça intéressant. On a peu de perspectives africaines de l'histoire, parce que ça a été fait par les colonisateurs, comme on le sait. J'ai pris un programme pour pouvoir en profiter pour le reste de la semaine.
Et qu'est-ce que vous aimez en particulier de cet événement?
De Vue d'Afrique, parce qu'on ne voit pas les films ailleurs. Ce sont des films qu'on ne voit pas ailleurs. Moi, voir marcher sur l'eau de la marraine Aïssa Maga, marcher sur l'eau, jamais entendu parler. Ce sont des longs métrages, des documentaires qui ne sont pas en salle au Québec.
Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques.
Aïssa est une comédienne, donc elle a donc beaucoup de métiers, elle a ce sens de l'image et puis cette passion.
Gérard Lechêne est cofondateur du festival, il nous reçoit au Baobar, un bar à palabres installé dans la Cinémathèque québécoise, le sourire jusqu'aux oreilles de retrouver les spectateurs.
C'est comme souvent quand on rencontre des vieux amis, hein. On a l'impression qu'on s'est quitté hier.
Le festival a atteint un autre public avec sa programmation en ligne l'année dernière, donc le patron de Vue d'Afrique n'abandonne pas ce volet-là.
On s'est reconverti dans le numérique, ça nous a permis de toucher un public hors de Québec. On a eu une audience multipliée par 10.
Un seul bémol, mais pas des moindres, pour Gérard Lechêne, plusieurs artistes africains qui voulaient venir au festival pour parler de leur film n'ont pas obtenu le visa du Canada.
Ils n'ont pas de réponse, ils ne peuvent pas venir. Aujourd'hui même, on leur a demandé encore pas de réponse.
Il espère plus de collaboration des douanes l'année prochaine où un pays de la Corne de l'Afrique sera à l'honneur.
C'est le Somaliland. Le Somaliland, c'est un pays, je l'avais pensé souvent, mais c'était très difficile d'établir des contacts. Et là, on va y arriver.
Alexis Gacon, à Montréal, pour RFI.
Voilà, ainsi s'achèvent tous les cinémas du monde. Au micro, Elisabeth Lequéré.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous vous parlerons d'une icône du cinéma français et mondial, la petite fiancée de l'Allemagne et de la France, l'inoubliable interprète de Sissi et de La Piscine. J'ai nommé Romy Schneider. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
RFI Planète Radio en